Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On sait tous plus ou moins que la mode, elle a un impact très négatif. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des nouvelles fringues. Vous, en tout cas moi, c'est sûr que j'achète des nouvelles fringues de manière assez régulière. Vous allez voir, les chiffres sont colossaux, ils sont même hallucinants. Et avec mon invité du jour, Julia Faure, qui est la fondatrice de Loom, qui est la présidente de En Mode Climat, qui est aussi la coprésidente de Mouvement Impact, on va vraiment se poser des questions dans le détail. Elle va être hyper explicite, hyper pédagogue aussi pour vous expliquer c'est quoi la différence entre la qualité et la durabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est une bonne fringue? C'est quoi le problème fondamental dans la mode? C'est quoi les impacts sociaux? C'est quoi les impacts climatiques? Est-ce que vraiment la problématique c'est l'eau? Comment on trouve des marques qui sont vraiment engagées? Comment on peut choisir ses fringues? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Est-ce que vraiment c'est à notre niveau que ça se joue? Bref, vous allez voir, on parle de plein de choses avec Julia, c'est passionnant, c'est vraiment hyper intéressant, c'est très utile surtout. Je vous laisse écouter l'épisode, allez v'lan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va bien.
On va parler des fringues, on va parler de la fast fashion, de la pollution, d'écologie, etc. Quand est-ce que c'est parti en sucette? Comment on arrive à cette situation aujourd'hui où il y a des tonnes de fringues qui sont brûlées? Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Alors, je dirais que les problèmes actuels du textile, de la mode, c'est-à-dire, bon, tu parles de fringues brûlées, mais c'est vraiment le plus petit des problèmes. Le problème actuel, c'est vraiment les volumes. C'est-à-dire, on produit et on consomme des quantités de vêtements astronomiques. Et comme on n'a pas le temps, et comme on continue à produire et qu'on continue à consommer, on jette, on ne sait pas quoi faire des déchets, etc. Pour te donner un chiffre, dans les années 80, en France, on consommait 1,4 milliard de vêtements. En 2022, le chiffre, c'est 3,3 milliards.
Ah, c'est ouf.
Ouais, donc on n'a pas plus que doublé la population française, on n'a pas plus que doublé...
Ah, ça, c'est en France?
C'est juste la France, ouais.
Ah oui, parce qu'on n'est pas 3 milliards non plus, quoi.
Non, on n'est pas 3 milliards. Donc, ça fait 50 fringues neuves par personne par an.
Wow.
Et donc, c'est plus de deux fois plus que dans les années 80. Et donc, ce doublement de notre consommation, il ne correspond à aucun nouveau besoin. Enfin, la population n'a pas augmenté d'autant. On n'a pas plus d'heures de sa vie à s'habiller. Enfin, vraiment, c'est juste ce doublement de la... Et dans les années 80, on n'était pas... j'étais pas là, mais
nos parents n'étaient pas nus non plus, quoi.
Non, mais ils étaient ni nus ni en haillons, tu vois.
Ouais, ouais.
Enfin, ils étaient voire plutôt assez stylés. Et donc voilà, c'est ce doublement de la quantité de vêtements produits, ça fait que globalement les externalités négatives du textile, elles ont été doublées aussi. Enfin, tu vois, genre, il faut que tu utilises deux fois plus de terre pour produire deux fois plus de coton. Comme généralement, on utilise du coton conventionnel, c'est deux fois plus de pesticides. Enfin, tu vois, c'est tout, deux fois plus de microplastiques. En fait, tous les problèmes du textile, si on produisait dans... Tous les problèmes écologiques du textile dont tu as entendu parler, si on produisait dans des quantités raisonnables, bah, les problèmes seraient dans des quantités raisonnables. Mais comme on produit vraiment, littéralement, des milliards de fringues dont on n'a pas besoin... Eh ben, on produit avec des milliards de problèmes qui pourraient être évités.
Et quand est-ce que c'est parti justement, enfin je reviens sur ma question, mais quand est-ce que c'est parti en sucette? À quel moment, parce que dans les années 80, donc on n'y était pas, et à quel moment ça a dérapé?
Dans les années 80, en fait, pour savoir quand c'est parti
en sucette... On n'y était déjà pas mal, parce qu'un milliard et demi de fringues...
2,5 milliards, c'était une vingtaine de fringues neuves par personne par an.
Ce qui est déjà beaucoup.
Ce qui est déjà beaucoup. Nous, on a fait le calcul. Si on voulait être compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait qu'on se limite à 5 fringues neuves par an, par personne. Donc, mais parlons de comment on est passé de la situation des années 80 à aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on a doublé notre consommation de vêtements? La première chose qui fait qu'on achète à peu près deux fois plus de vêtements que dans les années 80, c'est que les prix des vêtements, enfin les vêtements sont devenus pas chers. Et les vêtements sont devenus pas chers avec une solution hyper simple qui consiste à délocaliser la production des pays qui protègent bien les gens et qui les payent dignement vers des pays qui font pas tout ça. Et donc c'est exactement ça, en fait, ces années 80-90, ça correspond à la délocalisation de l'industrie française, mais pas que, hein, et du textile, mais pas que, dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Pour donner une idée, le salaire, le SMIC au Bangladesh, qui est un gros pays producteur de textile, c'est 80 euros. Et alors on peut se dire, bah oui, au Bangladesh, 80 euros...
C'est peut-être pas mal.
C'est peut-être pas mal pour vivre. Bon, et du coup, il y a des ONG qui ont fait des... qui calculent un indicateur pour savoir si le salaire minimum des pays, il est bien ou pas. Cet indicateur, ça s'appelle le salaire vital. En gros, ils regardent combien ça coûte la vie dans le pays et ils disent, voilà, si le minimum du minimum pour manger, pour avoir un toit sur la tête, pour avoir tes enfants à l'école, c'est ça. Voilà, le salaire vital, c'est ça. Au Bangladesh... le salaire minimum, il correspond à 20% du salaire vital. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire que les gens qui travaillent et qui font nos vêtements, ils sont payés une misère. Ils sont payés 20% de ce qu'ils devraient gagner pour...
survivre.
Enfin, ouais, pour vivre dignement.
Ouais, c'est, en fait, c'est ça.
Parce qu'ils survivent. Et donc pour donner une autre image, ça serait comme si tu bossais en France à plein temps, et que tu étais payé environ 500 euros par mois. C'est le niveau de vie que ça te donnerait en France. Tu vois bien qu'en France, avec 500 euros par mois, sauf si t'es héritier et que tu vis chez tes parents et tout ça, tu peux pas te nourrir, tu peux pas et te nourrir et te loger et te déplacer et encore moins avoir des enfants, etc. Donc c'est pour avoir un ordre d'idée, c'est ça qui a permis de faire baisser le prix des vêtements. C'est parce qu'on a été produire dans des pays qui payent mal les gens. Et même si le niveau de vie est moins important qu'en France ou en Europe, les salaires sont beaucoup trop bas pour assurer un socle minimum. Donc c'est ça la raison principale de pourquoi la mode est partie en vrille, c'est les délocalisations.
Ça et la qualité, non ? C'est pas aussi des qualités qui sont beaucoup moins bonnes ? J'ai l'impression que les fringues, en tout cas la fast fashion, les fringues, je sais pas si elles durent pas ou si les gens les changent parce que juste c'est pas cher. J'ai du mal à savoir parce que moi je suis pas consommateur pour le coup de fast fashion. Mais j'ai l'impression que la qualité n'est pas là non plus. C'est-à-dire qu'un t-shirt, il va se déformer, les produits vont perdre leur couleur. Enfin, tu vois, ça, il va y avoir des trous. Ou peut-être pas, hein, d'ailleurs, je me trompe.
Ouais, moi, c'était ma conviction quand j'ai commencé dans le textile. Ma conviction, c'était les gens achètent plus, on rachète plus de vêtements parce que la qualité s'est dégradée. Et du coup, dans le cadre de mon travail, donc moi je fais des vêtements et j'essaie de faire des vêtements de bonne qualité. Dans le cadre de mon travail, j'ai été amené à tester les vêtements du marché.
Ouais.
Et en particulier ceux de la fast fashion. Et en fait, paradoxalement, si on parle de résistance physique, les vêtements de la fast fashion ne sont pas forcément moins résistants. Pour une raison simple, c'est qu'on met beaucoup de matières synthétiques. Enfin, le synthétique, c'est beaucoup moins cher. Mmh. Le polyester, c'est beaucoup moins cher. Donc, et c'est plus pratique. Enfin bref, c'est moins cher à utiliser. Donc la fast fashion en utilise beaucoup. Et le polyester, c'est du plastique, c'est extrêmement résistant. Pour autant, je dirais pas que ça fait de la qualité. Mais ça fait que tes vêtements, ils se déforment moins, ils perdent moins leur couleur, ils boulochent. Bouloche, c'est un peu particulier, mais ils résistent mieux aux trous si tu mets du polyester dedans. Pour autant, est-ce qu'un vêtement avec beaucoup de polyester, c'est un vêtement de qualité ? En fait, on se rend compte que c'est pas exactement ça, parce qu'il y a d'autres problèmes à l'utilisation de polyester. Ça garde les odeurs, etc. Et sans parler des problèmes écologiques. Mais pour Mais pour te faire un parallèle, un vêtement, donc en matière naturelle, ça va être moins résistant, plus fragile, mais pour moi, c'est de meilleure qualité. Je te donne un parallèle. C'est comme un verre en verre. C'est fragile. Tu vois, si tu le fais tomber par terre, il tient pas. Mais si tu le compares à, tu sais, aux verres en plastique que tu as dans les festivals, les éco-cups, tu peux les jeter contre le mur, ils seront encore résistants. Est-ce que tu dirais qu'une éco-cup, c'est de meilleure qualité qu'un verre en verre? Donc c'est un peu... c'est pas évident à saisir au début, mais la fast fashion, ce n'est pas forcément moins résistant. Par contre, c'est comme si on avait remplacé tous nos verres en verre par des éco-cups. Donc, c'est super solide, mais est-ce que tu as envie de boire plusieurs fois dedans ? Est-ce que tu vas transmettre tes verres, tes éco-cups en plastique à tes enfants ? Est-ce que quand tu déménages, tu te dis que ça ? Non, une éco-cup, c'est tellement... c'est un bon parallèle avec le textile, c'est exactement ce qui s'est passé. Une éco-cup, c'est tellement pas cher que ça devient jetable. Donc c'est exactement les quand on remplace les verres en verre par des éco-cups, ben on a un produit dont on peut se débarrasser, on prend pas soin, et c'est la même chose dans le textile, ce qui s'est passé.
Mais alors du coup, de l'œuf ou de la poule, c'est parce que c'est pas cher qu'on le jette, ou c'est parce que ce que tu disais par exemple, enfin un éco-cup, tu vois, ça, si tu mets du vin, j'en sais rien d'ailleurs, je suis pas un spécialiste de l'éco-cup, mais j'ai l'impression que ça va aussi garder la couleur, ça va garder l'odeur, enfin le plastique a priori.
Le plastique, ça garde l'odeur, ouais.
Ça garde l'odeur, ça garde les couleurs, donc j'imagine que ça fait pareil pour les fringues, donc du coup, si t'as de la transpiration, ça va garder. Après, il y a des problèmes écologiques, on va y revenir sur les microplastiques et tout. Mais...
Le vrai désavantage des matières synthétiques, c'est cette question de l'odeur. Bah, t'as déjà utilisé les serviettes en microfibre qui sèchent hyper vite. Bon, ça c'est du polyester, bon, c'est pas comparable. Les questions d'odeur, et même sur les fringues de sport, donc c'est le vrai désavantage. Mais de savoir l'œuf ou la poule, est-ce que c'est parce que c'est du polyester qu'on les jette plus, ou est-ce que c'est parce que moi je crois vraiment que pour le coup, ce n'est pas tellement qu'on jette plus nos vêtements parce qu'ils sont abîmés, ni parce qu'ils sentent mauvais. Je pense que la plupart des vêtements dont on se débarrasse, ils n'ont pas le temps de sentir avant qu'on s'en débarrasse. En fait, c'est que la vraie truc, c'est que oui, on se débarrasse beaucoup de ces vêtements, mais on se débarrasse d'abord pour faire de la place dans notre placard. La vraie raison pour laquelle on rachète des vêtements, c'est pas tellement parce que nos anciens sont abîmés, c'est parce qu'on a envie de nouveau. Et c'est ça le deuxième tournant qui a été pris dans ces années 80-90, c'est l'accélération de la nouveauté des collections. C'est de là que ça vient fast fashion à la base. C'est le fait de passer d'un modèle où avant les marques traditionnelles ou les enseignes, elles avaient deux collections par an, une pour quand il fait chaud, une pour quand il fait froid globalement. Et avec l'arrivée de la fast fashion, cette notion de collection, elle s'est accélérée. Donc c'est Zara qui est le pionnier de ce truc-là. Donc tu passes deux collections par an, trois collections par an, quatre collections par an. Si tu commences à passer une collection toutes les 15 jours, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un nouveau paradigme qui est celui de l'ultra fast fashion, où la notion même de collection, elle est obsolète parce que tu as des nouvelles références, des nouveaux modèles qui arrivent chaque jour sur le site. Et c'est pas trois nouvelles références, c'est des milliers. C'est genre, en Chine, c'est des milliers de nouveaux modèles qui arrivent tous les jours sur le site.
Et du coup, moi je dis Shine, c'est Chine.
C'est Chine, ouais. Ah, ouais, moi aussi je disais Shine au début. Quand tu seras dans le game, tu diras Shine.
J'avoue, je suis pas dans le game.
Shine, c'est une chanteuse.
Parce qu'en fait, le gros problème de Chine, c'est sur la fast fashion, où, parce qu'en fait, ils ont encore des prix encore plus bas. Que si je me trompe pas, parce qu'en fait j'avais jamais acheté, mais j'ai l'impression des critiques que j'ai lues plus bas, donc du coup des conditions de travail qui sont moins bonnes par rapport à ce que tu disais, etc. C'est ça le problème, ou est-ce que la qualité, pareil, non, la qualité elle est bonne en fait, enfin elle est bonne, en tout cas elle est moins bonne par rapport à ce que tu disais, mais c'est des produits qui durent.
Ça, en fait, si tu fous du polyester dans un produit, il va résister.
Il va durer.
Chine, ça fait des éco-cups.
Ok, je comprends.
Donc, c'est ça qu'ils font. Donc, moi, je dirais que la qualité n'est pas bonne, mais que la résistance est bonne. Donc, Chine, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris les caractéristiques de la fast fashion, le bas prix et les incitations à consommer. Donc, dans les incitations à consommer, il y a cette idée de nouveauté, d'avoir toujours des nouvelles collections, des nouveaux modèles, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'usage des promotions, c'est particulièrement... c'est une technique qui est particulièrement utilisée dans la mode, parce que globalement, si je te mets un prix avec moins X%, tu vas être plus susceptible d'acheter.
Tout le monde.
Et donc, Shein, si tu vas sur leur site, c'est assez... c'est un bon délire.
Je suis jamais allé, j'avoue.
Ah ben non, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire de... t'as des promotions dans tous les sens, t'as de la gamification, t'as de l'intelligence artificielle pour te recommander des choses. Enfin, c'est genre, c'est ça peut être un cours de marketing, tu sais, pour les gens qui sont trop fans des nouvelles technologies, nouvelles techniques marketing. Il y a tout, tu vois, genre tous ces mots que t'entends depuis des années dans l'écosystème marketing et tout. Donc Donc Shein, c'est juste qu'ils ont pris toutes les recettes actuelles de la fast fashion, renouveler les collections, faire des bas prix, utiliser des incitations à consommer modernes, les dark patterns, les paiements en trois fois, les promos, la pub, le ciblage sur Insta. Ils ont pris tout et ils ont poussé les curseurs au max. Mmh. Et donc c'est globalement Shein, c'est l'ultra fast fashion qui a réussi, quoi.
Ouais, je comprends. Et en fait, ce que ça, alors, je sais pas que je vais récapituler, mais ce que tu dis d'abord, c'est que quand t'achètes de la fast fashion, le problème, c'est que tu fais travailler des gens. C'est pas esclavagisé, mais
moi aussi, si c'est du semi-esclavage.
On est quasiment sur d'esclavage. Ouais. En fait,
En tout cas,
tu participes à ce jeu-là.
Ouais, tu participes
de manière
ça, ouais.
consciente ou inconsciente, plutôt inconsciente, mais enfin, globalement, ouais. tu participes.
Ouais.
Et là, il y a le Bangladesh, mais il y a eu tout ce débat autour des Ouïghours.
Ouais.
Donc,
bon, là, c'est du vrai esclavage.
Pour le coup, c'est du vrai esclavage. Ouais. Et de manière, de manière assez étonnante, moi, je suis toujours surpris par le positionnement de Nike sur les femmes. Tu vois, à mort sur la libération des femmes, Nike She Runs, et, voilà, toutes les pubs avec les femmes, Empower the Woman and everything. Et en même temps, ils font bosser des femmes esclavagisées, quoi.
Ah
bah, c'est incroyable.
Et surtout que c'est vraiment l'industrie textile, c'est des meufs qui produisent.
Ouais, c'est
80%
ça.
des ouvriers, c'est des ouvrières, quoi. Donc c'est vraiment effectivement. Ce que d'autres, vendre du féminisme aux femmes occidentales pour exploiter des femmes des pays pauvres. Alors cynique, oui, non, mais ouais.
Bah, pour moi, c'est super cynique. Enfin, Nike, pour moi, c'est. Alors, c'est une grosse marque et tout, mais. Et ils dépensent beaucoup en pub, mais j'ai l'impression que c'est la marque la plus cynique de la Terre. Parce que moi, à la limite, Shein, tu vois, ils sont. C'est transparent, plus ou moins, mais en tout cas, tu sais ce que t'achètes, quoi. Mais Nike. Je trouve que c'est cynique parce qu'ils te vendent un truc et ils font exactement l'inverse.
Ouais, et surtout Nike, ils ont été impliqués dans tous les scandales qui ont traversé l'industrie. Le premier scandale, c'est Naomi Klein qui le raconte dans son livre No Logo. On a découvert que c'était des gamins qui cousaient les ballons Nike. Et à cette époque, il y a eu un gros boycott de la marque Rana Plaza, il y a eu leurs étiquettes. Ouïghour, ils sont dedans. Enfin, tu vois, genre, ils sont dans tous. Et genre, ça n'a jamais affaibli la marque. Enfin, la marque, elle est toujours aussi désirable, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc qui est là.
Qu'ils mettent beaucoup d'argent en pub, aussi.
Ouais, ils mettent beaucoup d'argent en pub, mais ça dit aussi quelque chose. Ça dit que.
Les gens s'en foutent.
En tout cas, ça dit qu'on ne peut pas attendre que le changement de paradigme vienne du consommateur. Parce qu'on a un exemple précis de marque qui a été condamnée publiquement, qui a eu toutes les ONG, qui a eu des boycotts, qui est impliqué dans le fond de Louis Dour, qui est régulièrement dénoncé. Enfin, Glucksmann, il les a bien targetés et tout. Ça ne change rien à leurs chiffres. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi. Je ne sais pas s'il y a une marque qui vaut plus cher que Nike aujourd'hui.
Marque de fringues, ouais, non, j'en sais rien. Mais moi, j'ai jamais acheté de fringues Nike, pour cette raison, en fait. Mais j'avoue que, et parce que le marketing est fort, tu vois, parfois, ça me donne envie, tu vois, genre des Air Max, bon, peut-être pas des Air Max, je connais rien en Nike, mais tu vois, le logo est cool, les chaussures sont cool, en plus, celles des années 80 et tout, elles sont assez cool, enfin, tu vois, ce design un peu revival, machin. Et je le fais pas parce que voilà, mais en même temps, chez moi, il y a quand même cette envie d'aller acheter ce que je trouve ça cool. Et en même temps, je le fais pas pour des raisons.
Ouais, moi aussi, hein. Moi, je suis trop dégoûtée à chaque fois.
Ça marche, quoi.
Ben, je suis là, mais ça, c'est magnifique. Non, c'est fait par des enfants.
C'est des femmes esclaves. Et en fait, tu parlais de. Comment s'appelle cet immeuble qui s'est effondré?
Le Rana Plaza.
Voilà, Rana Plaza, il y a eu 3 millions de morts, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Non, pas 3 millions.
1 million 5
ouais.
Non, je ne sais plus.
Non, 3 millions, non, c'est, plus, c'est quelques
non,
milliers.
Non, non, 3 000, pardon.
Oui, quelques
quoi,
milliers, c'est sûr.
Oui, 3 000, pourquoi 3 millions, n'importe quoi.
3 000, mais quelques milliers, mais c'est genre, mais... c'est dingue, tu vois. C'est là, 3 000 morts, je regardais les chiffres.
C'est la taille d'un village en France, quoi.
Tu sais, du séisme au Maroc?
2000 maintenant.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce genre. Enfin, c'est autant de morts que s'il y avait un séisme qui avait traversé le pays. Donc,
Et ça fait 10 ans. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Pas grand-chose.
Pas grand-chose. Hein.
Alors, il y a des choses théoriques qui sont passées, comme la loi sur le devoir de vigilance. qui rend... En fait, le problème du textile, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes de sous-traitance. C'est-à-dire que même si tu retrouves des logos Nike dans les décombres du Rana Plaza, Nike, ils vont te dire, ben, c'est pas nous. Nous, on a confié, en fait, la production à une usine. C'est pas notre usine, en fait. Donc, c'est pas nous qui sommes responsables. Donc, la loi sur le devoir de vigilance, son objectif, c'est de rendre responsables les donneurs d'ordre. Et comme ça, tu es obligé d'assurer, en fait, que les gens à qui tu sous-traites le travail, eh ben, ils font pas n'importe quoi. Ça, c'est une loi qui est passée au niveau français, qui est en train de passer au niveau européen. Le truc, c'est que pour l'instant, il n'y a personne qui a été condamné. Bon, parce qu'il y a du lobbying dans tous les sens, etc. On n'a pas encore réussi à bien l'appliquer. Mais elle part de là, elle part du Rana Plaza, cette loi. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qui a changé sinon?
Les Ouïghours.
Non, mais en fait, on voit, il y a des. Alors, moi, j'ai été au Bangladesh.
Oui, avec
Hugo Clément. Pas avec lui, mais avec son émission. Et du coup, j'ai pu voir un peu les usines et tout. Et je trouve que quand même, il y a quelque chose qui a changé par rapport au reportage que je voyais de l'époque. C'est qu'il n'y a plus d'usines dégueux. Moi, ce qu'on m'a dit...
Maintenant, ils sont bien pour les caméras.
Ouais, non, mais en fait, je pense qu'il y a une grosse pression des marques internationales qui étaient là en mode il n'y a plus d'usines dégueux. De ce que j'ai compris, le gouvernement, il a fait construire toutes les usines neuves dans un autre partie de la ville. Et moi, j'ai vu vraiment des bâtiments clean, voire des bâtiments surmodernes. Et ce qu'on m'a dit, c'est que les usines, les sweatshops, enfin vraiment aux conditions horribles, elles sont réservées pour la fabrication locale. Pour le marché local, parce que là il y a pas les marques internationales qui viennent vérifier. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé sur le cadre de travail. Je pense qu'il y a un vrai truc où je pense qu'on aura... Attends, je touche du bois. Je pense qu'il y aura plus de...
Toi.
Ouais, je touche... Attends. Parce que j'ai touché du placo, là.
Ça marche pas, le placo.
Je pense que... Enfin, je souhaite qu'il y ait plus ça. Je pense qu'il y a moins de chances qu'il y ait à nouveau ce problème-là, en tout cas au Bangladesh. Par contre, les salaires sont toujours des salaires de misère.
C'est ça.
Moi, j'ai été voir une usine super moderne, mais vraiment, genre, la modernité... j'en ai pas vu des aussi modernes en France. Ni en Europe d'ailleurs, et donc incroyable, tout blanc et tout, enfin c'est genre c'est vraiment l'usine du futur, quoi. Et il y a des bus, enfin, et tu vois en fait les ouvrières qui sortent de l'usine et ensuite le soir elles rentrent chez elles et elles dorment dans des bidonvilles, tu vois. Ouais. Donc t'as un espèce de en fait on a modernisé les endroits qui rassurent les Occidentaux qui viennent acheter ici, mais dans la vie de ces femmes, elles sont toujours sous de la tôle ondulée.
En fait, quand je t'entends, ça me fait penser à un truc horrible, mais tu sais, les porcheries là, qui sont hyper modernes, tu vois ces immeubles où ils stockent des porcs...
Les trucs chinois.
C'est immonde.
Sur 15 étages.
C'est ça.
Ouais.
En fait, c'est hyper moderne, tu vois, c'est assez beau de vue de l'extérieur, c'est assez moderne, et c'est le pire du pire du pire, quoi.
Ah, c'est la déshumanisation totale.
Et ben là, moi ça me fait penser à ça, en fait,
ouais.
Quelque part.
Ouais.
Avec des humains.
Ouais, ouais, ouais. C'est en tout cas, l'argent a été mis dans le cadre de travail, mais le salaire, c'est toujours des salaires de misère, c'est toujours des conditions terribles. Et ce qui se passe en plus dans ces pays, c'est que c'est aussi les premières victimes des pollutions en tout genre.
Mmh.
Donc déjà les pollutions liées à l'industrie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ça aussi comme problème d'aller produire dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement, c'est que on ne régule pas beaucoup comment les entreprises polluent.
Ouais.
Donc il y a régulièrement des histoires d'entreprises textiles qui rejettent leurs produits chimiques directement dans les eaux, des fleuves et tout, qui servent à alimenter la communauté, donc qui empoisonnent vraiment la nature des communautés. Mais même si on parle de réchauffement climatique, c'est vraiment c'est dans ces pays-là qui souffrent le plus, quoi.
Enfin, bien sûr.
L'augmentation de la chaleur, les inondations. Le Pakistan, c'est un producteur textile, un producteur de coton, par exemple. Là, les dernières choses qui arrivent à ce pays, c'est catastrophique. C'est
Ouais. Mais en même temps, ouais, tous ces pays-là, enfin les pays du Sud, entre guillemets, je ne sais pas comment les appeler, c'est ceux qui vont prendre, enfin qui prennent déjà, réalité, la grosse vague. Je voulais faire une intervention. Tout à l'heure, je me disais, quand je t'entendais te parler des placards, moi, ce que j'ai remarqué, pour moi, c'est que j'achète des fringues jusqu'à remplir mes placards. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné, quand j'ai plus de place, ben, je n'achète plus. Et par exemple, chez moi, à Lisbonne, j'ai deux placards. Il y a un placard que je n'utilise pas du tout, mais volontairement, parce que si je commence à m'étendre, je sais que je vais acheter plus de fringues. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est un bon indicateur, le placard. C'est-à-dire que... Et